Entretien avec notre évêque.
Présenté par Véronique Lara.
Bonjour Monseigneur.
Bonjour Véronique. Je suis heureux de retrouver l'antenne après un petit temps d'interruption dû au pèlerinage de Lourdes.
Voilà, vous en arrivez. Vous y étiez du 1er au 6 octobre. Voilà. On l'avait annoncé la semaine dernière.
Oui.
Et vous revoilà.
Ben voilà.
Heureux de ce pèlerinage.
Très. Voilà, très heureux. D'abord parce que nous avons finalement réussi. Je ne dis pas cet exploit, mais dans les contextes...
C'est le seul pèlerinage, d'ailleurs, du diocèse qui a pu avoir lieu.
Voilà, nous étions 140, donc 140, évidemment, c'est pas...
C'est un tout petit nombre.
On est loin des 900 habituels, mais 140, ce n'est pas du tout négligeable. Bon, le deuxième motif, bien sûr, c'est la démarche de pèlerinage elle-même. Lourdes est un lieu de paix, un lieu de repos spirituel et c'est vraiment un havre pour les personnes qui sont touchées par la maladie. Moi, j'ai eu la joie d'aller déjeuner et dîner dans tous les hôtels où il y avait les pèlerins puisque la maison des chapelains était fermée. Coup... Ils m'ont dit ce bonheur qu'ils avaient finalement de pouvoir se retrouver à peu, parce que les hôtels, finalement, ils étaient pratiquement seuls dans les hôtels, une dizaine par hôtel, enfin bon. Et donc, pouvant se côtoyer, échanger, voilà, se connaître vraiment, alors qu'en grand nombre, on a moins de facilité pour se connaître.
Oui.
Voilà, et puis, bien sûr, des belles célébrations. Et pendant tout le
avec vous, parce que c'est vous qui
qui présidez bien sûr le pèlerinage. D'abord, il y avait quand même des processions,
malades,
quand même, des chapelets qui se faisaient le soir de la grotte, et puis on faisait quand même en procession tout le tour de l'esplanade avec nos petites bougies allumées. Il y a eu le beau geste de l'eau à la fin du pèlerinage, faute de pouvoir se baigner dans les piscines.
Bien sûr.
On avait cette belle démarche, puisque en fait, à Lourdes, Marie ne dit pas « il faut vous immerger », elle dit « allez boire à la source et vous y lavez ». Donc on a fait ce double geste.
De l'eau, voilà, c'est très beau ça.
En confiant toutes nos intentions, bien sûr, et puis les intentions du diocèse. Voilà, donc tout le monde était heureux et on est tous rentrés vraiment pleins de la grâce de ce lieu.
Oui, c'est ça, ressourcés au sens propre du mot. Mmh. Alors, puisque vous venez de parler de fraternité, on va enchaîner sur ce deuxième thème de notre entretien d'aujourd'hui. Le 4 octobre, en la fête de Saint François d'Assise, le pape François publiait une nouvelle encyclique, son titre « Fratelli tutti ». Tous frères.
Alors je le dis avec l'accent, si vous me permettez.
Ah oui, je sais que vous aimez bien.
Fratelli tutti.
Fratelli tutti. Allez, on demande aux auditeurs de répéter. Voilà, alors on n'est pas étonné de ce titre de la part du pape François. C'est ça qu'on peut peut-être commencer par dire.
Oui.
Et puis, dites-nous ce qu'il faut en retenir. Alors, c'est un texte de 200 pages environ. Alors, comme il a 3 jours, je ne sais pas si vous avez pu déjà l'ingérer, le lire. Donnez-nous-en quelques lignes.
Oui, alors, d'abord, on peut dire que d'abord que c'est la troisième lettre encyclique que le pape François publie. Après « Lumen Fidei » en 2013 et « Laudato aussi en 2015, mais en soulignant que la première de ces encycliques « Lumen Fidei » en fait a été co-rédigée avec le pape Benoît XVI et qu'elle est d'ailleurs plus de la main de Benoît XVI que du pape François, puisque Benoît XVI nous a offert une trilogie sur les trois vertus théologales, donc une encyclique sur la charité, Deus Caritas Est, en 2009, une sur l'espérance, avant c'était Spe Salvi, en 2005, et donc il manquait celle sur la foi,
et c'est
avec le pape François qu'il l'a signée.
C'était l'encyclique du passage, du passage de relais, si vous co-signez.
Voilà, tout à fait. Ce qui fait que cette troisième lettre, Fratelli Tutti, on peut dire qu'elle exprime vraiment la pensée personnelle du pape François. Il a signé le 4 octobre, jour de la fête de Saint François. Le titre est tiré du Cantique des Créatures, de François. Alors, en passant, parce que ça a été remarqué, mais moi je trouve ça un peu ridicule, bon, on a tout de suite dit, ah ben il est question des frères, mais pas des sœurs, mais tout de suite...
Oui, mais la question n'est pas là,
mais non,
on
la question
va pas s'arrêter
pas
là. Oui, oui.
Non, mais d'ailleurs, ça commence comme ça, Fratelli Tutti, écrivait saint François d'Assise, en s'adressant à tous ses frères et sœurs, pour
simple.
Leur proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. Voilà, tout ça pour...
On ne va pas s'arrêter à ça,
non,
évidemment.
Bien sûr,
oui.
Bien sûr, mais comme bon, malheureusement, il y a toujours des grincheux pour faire des réflexions. Donc le thème, c'est le thème de la fraternité, l'amour fraternel, si vous voulez, dans sa dimension et, universelle, et puis son ouverture à toutes les personnes. Alors l'encyclique, c'est sur la fraternité et l'amitié sociale. Alors voilà, en fait, il va reprendre ce thème de Aristote, hein, enfin l'amitié. Il va en donner une extension pour les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et puis le pape François parle peut-être de manière plus audacieuse de la charité politique, de l'amitié politique. Parce que justement, pour Aristote, l'amitié politique, elle est le fondement de la cité et le sommet du bonheur éthique. C'est une encyclique avec 8 têtes de chapitre. Et comme le pape l'avait fait pour Laudato si, il commence par faire un descriptif plutôt négatif de la situation. Quand il a parlé de l'écologie, bon, le premier chapitre dans Laudato si, c'était pour dénoncer vraiment
la catastrophe,
vous voyez, enfin,
en tout cas.
Les dérives qui pourraient mener à la catastrophe en matière d'irrespect de la maison commune. Et ici, le premier chapitre est intitulé « Les ombres d'un monde fermé ». Donc un monde fermé, c'est un monde qui va contre la fraternité, et avec des rêves qui se brisent. Moi, j'ai trouvé très intéressant, évidemment, cette première partie que j'ai lue attentivement. Les rêves qui se brisent, en particulier pour François, c'est celui d'une Europe unie, capable de reconnaître ses racines communes, de vrai pour la paix. Alors on sait que c'était le rêve que caressaient justement les fondateurs de l'Europe, Desgasperi, Robert Schuman et puis Jean Monnet. Et le pape dit « L'histoire est en train de donner des signes de recul », voilà, avec des conflits qui se réenflamment, des nationalismes agressifs qui réapparaissent, et puis des politiciens qui font le jeu de la division en exacerbant les dissensions. Donc il y a des conflits d'intérêts qui nous opposent les uns des autres. Et au lieu de construire, ben, on est plutôt en train de détruire. Mm-hmm. Alors qu'il faut constituer un nous, N-O-U-S, hein, qui habite la maison commune. Alors je pense qu'on aura l'occasion à l'antenne peut-être de reprendre
dans le sujet.
Ce que je peux dire quand même, c'est que cette encyclique, le pape l'a rédigée en pleine pandémie de la Covid-19. Qui a dévoilé, dit le pape, l'incapacité d'agir ensemble, bien que nous, les pays aujourd'hui soient très connectés, bien on a observé une fragmentation qui a rendu plus difficile la résolution des problèmes qui nous touchent tous. Donc voilà, la manière dont on a mal solutionné finalement cette pandémie, parce qu'on voit toujours qu'on ne maîtrise pas vraiment bien les affaires, est une preuve que nos pays se fragmentent au lieu de se cimenter par la fraternité.
Oui,
donc voilà, l'actualité aussi nous rappelle l'urgence de ce thème.
Il parle d'une fraternité universelle.
Oui.
Si tant est qu'elle est possible. Enfin, il faut l'espérer.
Oui, il termine d'ailleurs par la figure de Charles de Foucault, qu'on appelle justement le frère universel. Et c'est cette figure-là qui met le point final au document du Saint-Père.
On a très peu de minutes, Monseigneur, pour parler de ce communiqué des évêques de France, une déclaration même sur deux questions d'actualité fortes, le projet de loi bioéthique qui n'est toujours pas voté, on peut le dire, et puis l'appel à la fraternité, justement à la suite de la publication de l'encyclique du pape. Voilà les deux thèmes de cette déclaration qui est sortie ce mardi 6 octobre. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette déclaration-là, notamment sur la loi bioéthique, l'Église est quand même très au clair déjà là-dessus.
C'est d'abord un cri d'alarme qui est lancé contre toutes ces mesures qui vont être encore discutées à l'Assemblée nationale. La première, il faut quand même peut-être le rappeler, c'est la mesure qui préconise l'allongement du délai d'avortement.
de 12 à 14 semaines.
Sous couvert de droits des femmes et d'égalité, ça devient effrayant. Ces enfants qui ne sont plus accueillis, voilà, on en fait des produits d'élection, de choix. Et comment on peut justement construire une société fraternelle, puisqu'on parlait de la fraternité avec le pape François, lorsqu'on n'a rien de mieux à proposer aux mères en détresse que l'élimination de l'enfant qu'elles portent. Voilà. Et donc, bien sûr, c'est aussi tout ce qui a trait à la GPA, organiser finalement la naissance d'enfants qui n'auront pas de père, tout au plus un géniteur. Comment, là aussi, on peut construire une fraternité sans reconnaître les rôles de la mère et du père. Voilà. Et quand on ne reconnaît plus non plus que le lieu digne de l'engendrement d'un être humain, c'est l'union corporelle d'un homme et d'une femme qui ont choisi d'unir leur vie, voilà, pour créer un espace d'alliance et de paix au milieu de ce monde qui est à la fois magnifique et dangereux. Donc, comme évêque, eh bien, nous encourageons bien sûr les parlementaires à se saisir dans un vrai dialogue de vérité de ces questions. Voilà, il va y avoir des initiatives prises en France pour exprimer, quand on est catholique en particulier, ses réticences, son opposition aux dispositions qui s'annoncent. Bon, moi, comme évêque, bien sûr, j'encourage les chrétiens à s'exprimer.
Contre voilà. Ces réticences. Alors, on va s'arrêter sur la conclusion de ce message des évêques de France qui nous disent « L'Église accueille tout être humain, quelle que soit son origine et quelles que soient ses opinions, avec respect et espérance. » C'est ce que sait faire l'Église.
Oui, c'est la preuve que l'Église n'est pas dans un message contre. La question n'est pas de dire toujours non.
Contre des personnes.
Contre des personnes, c'est de dire oui, à la vie, de dire oui à l'amour humain, de dire oui à l'enfant qui arrive, c'est de s'émerveiller voilà, de tout acte de fraternité réel, comme le dit aussi le texte. Et le texte termine, « Quoi qu'un être humain ait fait, un chemin vers le Père lui est ouvert et il vaut toujours la peine de prendre ce chemin. »
Voilà, qui c'est important de dire
positif,
ça quand
et plein
on appelle
d'espérance.
À s'opposer à un texte, mais pas à des personnes.
Exactement. Voilà.
Merci, Monseigneur.
Merci et à la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Voilà. Au revoir.